Vous écoutez France Culture.
Lettre de Diderot à Sophie Volant. Choisie par Hélène Bleskin et lue par Gabriel Dufay. En direct du studio 111 de la maison de Radio France.
Venez, ma Sophie, venez.
Le sort nous traite.
Je sens mon cœur échauffé.
C'était nécessaire à la durée de nos
vies. Et je continue de vous parler.
Adieu, mon ami.
Sans savoir si je forme des caractères.
Un mot, s'il vous plaît.
Partout où il n'y aura rien, lisez que je vous aime.
Quand on écrit des femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et jeter sur la ligne la poussière des ailes du papillon.
Premier épisode.
10 mai 1759. Ce vendredi matin. Nous partîmes hier à 8h pour Marly. Nous y arrivâmes à 10h30. Nous ordonnâmes un grand dîner et nous nous répandîmes dans les jardins où la chose qui me frappa, c'est le contraste d'un art délicat dans les berceaux et les bosquets et d'une nature agreste dans un massif touffu de grands arbres qui les dominent et qui forment le fond. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de statues dans un jardin et celui-ci m'en paraît un peu trop peuplé. Il faut regarder les statues comme des êtres qui aiment la solitude et qui la cherchent, des poètes, des philosophes et des amants. Et ces êtres ne sont pas communs. Quelques belles statues cachées dans les lieux les plus écartés, les unes loin des autres, qui m'appellent, que j'aille chercher ou que je rencontre, qui m'arrêtent et avec lesquelles je m'entretienne longtemps, et pas davantage, et point d'autre. Je portais tout à travers les objets, des pas errants, et une âme mélancolique. Les autres nous devançaient à grands pas, et nous les suivions lentement, le baron de Gleichen et moi. Je me trouvais bien à côté de cet homme. C'est que nous éprouvions au-dedans de nous un sentiment commun et secret. C'est une chose incroyable, comme les âmes sensibles s'entendent presque sans parler. Un mot échappé, une distraction, une réflexion vague et décousue, un regret éloigné, une expression détournée, le son de la voix, la démarche, le regard, l'attention, le silence, tout les décèle l'une à l'autre. Nous nous parlions peu, nous sentions beaucoup, nous souffrions tous deux, mais il était plus à plaindre que moi. Je tournais de temps en temps mes yeux vers la ville. Les siens étaient souvent attachés à la terre. Il y cherchait un objet qui n'est plus. Nous partageâmes notre promenade en deux. Nous parcourûmes les bas avant dîner. Nous dînâmes tous d'appétit. Notre baron, le nôtre, fut d'une folie sans égale. Il a de l'originalité dans le ton et dans les idées. Imaginez un satyre gai, piquant, indécent et nerveux, au milieu d'un groupe de figures chastes, molles et délicates. Tel il était entre nous. Il n'aurait ni embarrassé ni offensé ma Sophie, parce que ma Sophie est homme et femme quand il lui plaît. Il n'aurait ni offensé ni embarrassé mon ami Grimm, parce qu'il permet à l'imagination ses écarts et que le mot ne lui déplaît que quand il est mal placé. Oh, combien il fut regretté, cet ami, que ce fut un intervalle dans notre repas bien doux que celui où nos âmes s'ouvrirent et où nous nous mîmes à peindre et à louer nos amis absents. Quelle chaleur d'expression, de sentiments et d'idées! Quel enthousiasme, que nous étions heureux d'en parler, qu'il l'aurait été de nous entendre. Oh, mon Grimm, qui est-ce qui vous rendra mes discours? Notre dîner fut long et ne dura pas. Nous parcourûmes les hauts. Nous nous entretînmes d'art, de poésie, de philosophie et d'amour, de la grandeur et de la vanité de nos entreprises, du sentiment ou du vers de l'immortalité, des hommes, des dieux et des rois, de l'espace et du temps, de la mort et de la vie. C'était un concert au milieu duquel le mot dissonant de notre baron se faisait toujours distinguer. Le vent qui s'élevait et la soirée qui commençait à devenir froide nous rapprochèrent de notre voiture. Nous descendîmes entre 8 et 9 à la porte de notre ami. Je me reposai là jusqu'à 10. J'ai dormi de lassitude et de peine. Oui, mon ami, et de peine. J'augure mal de l'avenir. Votre mère a l'âme scellée des 7 sceaux de l'Apocalypse. Sur son front est écrit « Mystère ». Je vis à Marly 2 sphinx et je me la rappelais. Elle nous a promis, elle s'est promis à elle-même plus qu'il n'est en elle de tenir. Mais je me console et je vis sur la certitude que rien ne séparera nos deux âmes. Cela s'est dit, écrit, juré si souvent, que cela soit vrai, du moins une fois. Sophie, ce ne sera pas de ma faute. Monsieur de Saint-Lambert nous invite, le baron et moi, à aller à Épinay passer quelque temps avec Madame Doudetot. Je refuse, et je fais bien, n'est-ce pas ? Malheur à celui qui cherche des distractions. Il en trouvera, il guérira de son mal, et je veux garder le mien jusqu'au moment où tout finit. Je crains de vous aller voir, il le faudra pourtant. Le sort nous traite comme si la peine était nécessaire à la durée de nos liens. Adieu, mon ami. Un mot, s'il vous plaît, par l'anneau. À propos, ménagez la complaisance de votre sœur et ne l'entretenez de vous et de moi que quand vous ne pourrez contenir vos sentiments ou qu'elle vous en sollicitera. Nos amis, même les plus tendres, ne peuvent pas mettre à cela beaucoup d'importance. Il faut avoir appris à écouter et à plaindre les amants. Elle ne le sait pas encore. Puisse-t-elle l'ignorer toujours ? Je baise la bague que vous avez portée. Juin 1759. Samedi matin. Voilà, ma tendre et solide amie, l'ouvrage du grand sophiste Jean-Jacques. Je ne l'ai pas lu. Je ne me sens pas encore l'âme assez tranquille pour en juger sans partialité. Il vaut mieux différer une action que de se hâter de commettre une injustice. Méfiez-vous aussi un peu de votre cœur et craignez que le mécontentement de la personne n'aille jusqu'à l'auteur. Écoutez-le comme si je n'avais point à me plaindre de lui. On peut donc être éloquent et sensible sans avoir ni principe d'honneur, ni véritable amitié, ni vertu, ni véracité. Cela me fâche bien. Si cet homme n'a pas un système de dépravation tout arrangé dans sa tête, que je le plains. Et s'il s'est fait des notions de justice et d'injustice qui le réconcilient avec la noirceur de ses procédés, que je le plains encore. Dans l'édifice moral, tout est lié. Il est difficile qu'un homme écrive sans cesse des paradoxes et qu'il soit simple dans ses mœurs. Regardez en vous-même, ma Sophie, et dites-moi pourquoi vous êtes si sincère, si franche, si vraie dans vos discours. C'est que ces mêmes qualités sont la base de votre caractère et la règle de votre conduite. Ce serait un phénomène bien étrange qu'un homme pensant et disant toujours mal et se conduisant toujours bien. Le dérangement de la tête influe sur le cœur et le dérangement du cœur sur la tête. Faisons en sorte, mon ami, que votre vie soit sans mensonge. Plus je vous estimerai, plus vous me serez cher. Plus je vous montrerai de vertu, plus vous m'aimerez. Combien je redouterai le vice quand je n'aurai pour juge que ma Sophie. J'ai élevé dans son cœur une statue que je ne voudrais jamais briser. Quelle douleur pour elle si je me rendais coupable d'une action qui m'avilit à ses yeux. N'est-il pas vrai que vous m'aimeriez mieux mort que méchant ? Aimez-moi donc toujours, afin que je craigne toujours le vice. Continuez de me soutenir dans le chemin de la bonté. Qu'il est doux d'ouvrir ses bras quand c'est pour y recevoir et pour y serrer un homme de bien. C'est cette idée qui consacre les caresses. Qu'est-ce que les caresses de deux amants lorsqu'elles ne peuvent être l'expression du cas infini qu'ils font d'eux-mêmes ? Qu'il y a de petitesse et de misère dans les transports des amants ordinaires, qu'il y a de charme, d'élévation et d'énergie dans nos embrassements. Venez, ma Sophie, venez. Je sens mon cœur échauffé. Cet attendrissement qui vous embellit va paraître sur ce visage. Il y est. Ah, que n'êtes-vous à côté de moi pour en jouir ? Si vous me voyiez dans ce moment, que vous seriez heureuse. Que ces yeux qui se mouillent, que ces regards, que toute cette physionomie serait à votre gré. Et pourquoi s'opiniâtre-t-il à troubler deux êtres dont le ciel se plaisait à contempler le bonheur ? Ils ne savent pas tout le mal qu'ils font. Il faut leur pardonner. Je ne vous verrai point ce matin. Je ne trouverai point M. Petit chez lui et je suis arrêté chez moi par M. de Chimène. J'ai passé la nuit à lire sa tragédie dont j'ai fait un extrait pour Grimm. J'irai ce soir à la Comédie Nouvelle, et c'est encore pour lui que j'irai. Les trois belles âmes que la vôtre, la mienne et la sienne. S'il m'en manquait une des deux autres, qui est-ce qui remplirait ce vide terrible ? Vivez tous les deux, si vous ne voulez pas que je sois un jour la voix qui crie dans le désert. Je serai dans le parterre, vers le fond et dans le milieu. C'est de là que mes yeux vous chercheront. Je m'en reviendrai après la petite pièce, ou peut-être avant, jeter sur le papier mes idées et travailler pour mon ami. Je serai demain à midi où vous m'attendez. J'y serai sans faute. Combien je sacrifie de moments doux à votre mère. J'ai un peu rêvé à la répugnance de votre sœur. Elle ne m'estime donc pas assez pour me voir enfermé dans la même boîte avec elle. Mais ce n'est pas cela, ma Sophie. Peut-être craint-elle qu'un jour que vous serez, ou que vous ne serez plus, cette boîte, cette mère, empêchera donc toutes les choses douces et innocentes que nous méditerons ? Dites-lui qu'on peut arranger les deux portraits comme il lui plaira. Dites-lui que je suis un homme de bien, que rien ne me fera changer pour vous. Dites-lui que la plus grande considération dans la mémoire des hommes m'est assurée. Dites-lui que j'ai atteint l'âge où l'on ne change plus de caractère. Dites-lui combien je serai flattée, combien vous seriez heureuse de tenir, de sentir, de regarder elle et moi, moi et elle. Transportez-la au moment où vous vous séparerez, elle pour s'en retourner à Châlons, vous pour revenir à Paris. Vous refusez son portrait, c'est se détacher du vôtre. Madame, pesez bien tout et ne contristez pas votre sœur. Suivez l'impulsion de votre âme. Elle vous conseillera toujours bien. J'aime qu'on ait des vues délicates. J'aime aussi qu'on les néglige quelquefois. Il suffit de pouvoir se dire dans l'avenir, j'y avais pensé. Il est bien singulier que ce soit un jaloux qui tienne ses discours et qui insiste. Est-ce que je suis désabusé ? Je ne sais. Si votre sœur se résout à ce que nous lui demandons, et que vous nous ayez tous les deux, Sophie, prenez garde. Ne la regardez pas plus tendrement que moi. Ne la baisez pas plus souvent. Si cela vous arrive, je le saurai. Adieu, mon ami. À demain. Oh, la belle soirée que celle d'hier. Vous êtes bien touchée, bien tendre. Et Mademoiselle Boileau avait de l'esprit comme un ange. Elle était heureuse de votre bonheur et du bien. Cela est d'une âme charmante. July 7, 1759. Bonjour, mon ami. Je ne vous vis point hier. Le baron, qui en agit fort singulièrement quelquefois avec ses amis, ne dînait point hier chez lui. J'allais au palais royal et je recommandais au portier de notre ami de recevoir une lettre pour moi s'il en venait une. J'y passais le soir, point de lettre. Je ne vous verrai point encore aujourd'hui, à moins que ce ne soit sur le soir. S'il faisait un temps bien orageux, bien pluvieux, bien noir, je me jetterais dans un fiacre et j'arriverais. Puisse-t-il faire ce temps ? Puissé-je vous voir, mon ami ? Dites-moi pourquoi je vous trouve plus aimable de jour en jour. Ou me cachiez-vous une partie de vos qualités, ou ne les apercevais-je pas? Je ne saurais vous rendre l'impression que vous fîtes sur moi pendant le petit moment que nous passâmes ensemble avant-hier. C'est, je crois, que vous m'aimez davantage. Voilà le billet que je reçois à l'instant du baron. Et voilà une lettre que je reçus hier pour Madame Legendre. Présentez-lui mon respect. Et vous, ma Sophie, croyez-moi pour jamais tout ce que vous savez que je vous suis. Voilà aussi quelques papiers que vous désirez de voir. 10 juin 1759. J'écris sans voir. Je suis venu. Je voulais vous baiser la main et m'en retourner. Je m'en retournerai sans cette récompense. Mais ne serais-je pas assez récompensé si je vous ai montré combien je vous aime? Il est 9 heures. Je vous écris que je vous aime. Je veux, du moins, vous l'écrire. Mais je ne sais si la plume se prête à mon désir. Ne viendrez-vous point pour que je vous le dise et que je m'enfuie? Adieu, ma Sophie, bonsoir. Votre cœur ne vous dit donc pas que je suis ici? Voilà la première fois que j'écris dans les ténèbres. Cette situation devrait m'inspirer des choses bien tendres. Je n'en éprouve qu'une, c'est que je ne saurais sortir d'ici. L'espoir de vous voir un moment me retient, et je continue de vous parler sans savoir si je forme des caractères. Partout où il n'y aura rien, lisez que je vous aime. 15 juillet 1759. Voilà la lettre de Grimm. Je l'ai relue avant de vous l'envoyer. Imaginez ce qui sera de lui lorsqu'il aura appris que celui qui lui disait en l'embrassant il y a quelques mois « Voilà pour mon fils, voilà pour ma fille, voilà pour ma petite fille » n'est plus. Il s'est endormi entre les bras de 2 de ses enfants, sans douleur, sans agonie et sans effort. Mon père n'était pas un de ces hommes qu'on oublia quand on l'avait connu. Grimm se ressouviendra de lui et le pleurera. Vous adoucirez l'idée que j'en garderai. Elle ne me quittera pas, même à côté de vous. Mais ce qu'elle a de touchant et de mélancolique, se fondant avec les impressions de tendresse et de volupté que je reçois de vous, il résultera de ce mélange de sentiments un état tout à fait délicieux. Ah, s'il pouvait devenir habitude! Il ne s'agit que d'être bon amant et bon fils, homme bien reconnaissant et bien tendre. Et il me semble que j'ai ces deux qualités. On n'éprouverait plus cette joie bruyante. L'âme ne s'ouvrirait que par intervalles. Mais le rayon de gaieté qui s'en échapperait, semblable au rayon de lumière qui descend du ciel dans un jour nébuleux et couvert, n'en aurait que plus d'éclat et d'effet. Celui de notre tristesse sur les autres est bien singulier. N'avez-vous pas remarqué quelquefois, à la campagne, le silence subit des oiseaux? S'il arrive que dans un temps serein, un nuage vienne à s'arrêter sur un endroit qu'il faisait retentir de leur ramage? Un habit de deuil dans la société, c'est le nuage qui cause en passant le silence momentané des oiseaux. Il passe et le chant recommence. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Avez-vous bien dormi? Dormez-vous quelquefois comme moi, les bras ouverts? Que vos regards étaient tendres hier. Combien ils le sont depuis quelque temps? Ah, Sophie, vous ne m'aimiez pas assez si vous m'aimez aujourd'hui davantage. Si vous m'avez écrit un petit mot, je saurais comment le reste de la soirée d'hier s'est passé. Bonjour, ma tendre amie. Je vous baise. Oh, je vous baise bien. N'est-il pas vrai? Et c'est toujours le même plaisir pour moi, toujours. Ils n'en croiront rien, mais cela sera en dépit de tous les proverbes, fussent-ils de Salomon. Cet homme-là avait trop de femmes pour entendre quelque chose à l'âme de l'homme de bien qui n'en estime et qui n'en aime qu'une. 23 juillet 1759. Je ne saurais m'en aller d'ici sans vous dire un petit mot. Eh bien, mon ami, Vous comptez donc beaucoup sur moi? Votre bonheur, votre vie sont donc liés à la durée de ma tendresse? Ne craignez rien, ma Sophie. Elle durera, et vous vivrez heureuse. Je n'ai point encore commis le crime, et je ne commencerai pas à le commettre. Je suis tout pour vous. Vous êtes tout pour moi. Nous supporterons ensemble les peines qu'il plaira au sort de nous envoyer. Vous allégerez les miennes, j'allégerai les vôtres. Puissé-je vous voir toujours telle que vous êtes depuis quelques mois? Pour moi, vous serez forcé de convenir que je suis comme au premier jour. Ce n'est pas un mérite que j'ai, c'est une justice que je vous rends. L'effet des qualités réelles, c'est de se faire sentir plus vivement de jour en jour. Reposez-vous de ma constance sur les vôtres et sur le discernement que j'en ai. Jamais passion ne fut plus justifiée par la raison que la mienne. N'est-il pas vrai, ma Sophie, que vous êtes bien aimable? Regardez au-dedans de vous-même. Voyez-vous bien? Voyez combien vous êtes digne d'être aimé et connaissez combien je vous aime. C'est là qu'est la mesure invariable de mes sentiments. Bonsoir, ma Sophie. Je m'en vais plein de la joie la plus douce et la plus pure qu'un homme puisse ressentir. Je suis aimé et je le suis de la plus digne des femmes. Je suis à ses pieds, c'est ma place, et je les baise.
Juillet 1759. Je vous écrivis à Nogent où je couchais le premier jour. J'en partis le lendemain entre 3 et 4 du matin. Et après environ 24 heures de route continue, je suis arrivé à la porte de la maison. J'ai trouvé ma sœur et mon frère en assez bonne santé, mais d'une telle différence de caractère que j'ai bien de la peine à croire qu'ils puissent jamais se faire une vie douce. L'homme qui les liait et qui les contenait n'est plus. Mon frère avait tout mis en ordre. Ainsi, j'espère que nos affaires s'arrangeront sans délai et sans difficulté. Je suis bien pressé de vous revoir, mon ami. Je sens à tout moment qu'il me manque quelque chose. Et quand j'appuie là-dessus, je trouve que c'est vous. J'ai apporté avec moi quelques livres qui ne seront pas ouverts, des papiers sur lesquels je ne jetterai pas seulement les yeux. Lorsque j'entreverrai la fin de mon séjour, je demanderai à Madame votre mère ses ordres. J'attends de vos nouvelles. Adieu, ma tendre et bonne amie. Quand me retrouverai-je à côté de vous? Ce sera sûrement le plus tôt possible. Je vous avais promis l'histoire de la dernière matinée que j'ai passée à Paris. À présent, je n'ai plus le courage de vous en entretenir. Je voudrais oublier tous les torts que les autres ont avec moi. Portez-vous bien. Ménagez votre santé. Songez combien elle m'est chère. Je suis accablé de visites. Je suis interrompu à chaque ligne et je ne souffre pas patiemment qu'on vienne me distraire quand je suis avec vous. Adieu. Adieu. Il faut que je vous quitte pour des prêtres, des moines, des avocats, des juges, des animaux de toute espèce et de toute couleur. Mais je ne vous quitterai pas sans vous protester que je ne vis que par la tendresse que j'ai pour vous. Je veux être aimé de ma Sophie. Je veux être aimé de mon Grimm. Je veux être aimé et estimé de Madame Legendre. Qu'on m'assure le suffrage de ces trois êtres et que je puisse m'avouer à moi-même que je le mérite un peu, et tout sera bien. À Langres, ce 27 juillet 1759. Présentez mon respect à Mademoiselle Boileau.
Lettre de Diderot à Sophie Volant. Choisie par Hélène Bleskine est lu par Gabriel Dufay, en direct du studio 111 de la Maison de Radio France. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son et mixage, Bruno Mourlan et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossière.